Radio Campus Paris.
18h45 secondes, nous sommes le lundi 20 juin, c'est le dernier jour du printemps, figurez-vous, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Je crois que quand j'ai réalisé que c'était le dernier jour du printemps, j'ai failli avoir une attaque. Bonjour, c'est reparti pour 30 minutes avec un jeune talent qui sera un jeune talent de demain, un talent d'aujourd'hui qui parle d'un talent d'hier. Vous savez qu'on aime bien ça à la relève. Ce soir, on va parler de littérature, de claquettes, mais aussi malheureusement de suicide. Mon invité est romancière. Bonjour Colline Pierret, vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Vous êtes à distance, merci, hein. Vous êtes autrice. Vous venez de publier Pourquoi pas la vie, un roman aux éditions de l'Iconoclaste. Juste avant de commencer, c'est bien un roman que vous avez écrit ?
C'est complètement un roman, oui.
Vous l'assumez en tant que tel, donc ?
Oui, complètement. Il y a une grande majorité de fiction parmi le réel duquel je me suis inspirée.
Alors, au cœur de votre roman, il y a la figure de Sylvia Plath. Plath, je ne sais pas comment on prononce, on va dire Plath à l'anglaise. Avant d'aller plus loin, comment l'avez-vous rencontrée, Sylvia Plath ?
Moi, je l'ai rencontrée quand j'avais une vingtaine d'années par ses journaux. Donc, ces journaux qu'elle a écrits entre l'âge de 16 ans et 28 ans à peu près, ceux qui sont publiés, et dans lesquels elle parle de son désir de devenir écrivaine, essentiellement parce qu'elle avait encore pas ou peu publié, et de ses doutes, de ses difficultés à trouver sa place à la fois dans le monde et dans le milieu littéraire, à être à la hauteur de sa propre exigence qui était très haute. Et je me suis sentie très proche de ce dont elle parlait, de son ressenti. Et c'est vraiment c'était ça ma porte d'entrée dans son œuvre.
Mais vous l'avez trouvée seule ou on vous l'a conseillée ? C'est par d'autres lectures que vous l'avez trouvée ? Vous l'avez rencontrée ?
C'est par un proche, c'est mon compagnon qui n'était pas mon compagnon à l'époque, mais qui m'a fait découvrir son écriture en m'en parlant en fait. Il en a dit quelques mots et ça a suffi à me convaincre de me plonger dedans.
Forcément, je vais vous demander ça, mais forcément, vous ne devez pas savoir. Vous vous rappelez des quelques mots qu'il vous a dit ? En tout cas, de l'esprit de ce qu'il vous a dit à ce moment-là, peut-être, parce que j'imagine bien que vous n'enregistriez pas à l'époque, vous ne doutiez pas qu'un jour vous écririez un livre sur elle.
Non, il me semble qu'il a parlé de la joie de trouver quelqu'un dont il se sentait proche et la tristesse en même temps de savoir qu'elle était morte, en fait, qu'elle n'avait pas pu se sauver, que personne n'avait pu la sauver.
Voilà, Sylvia Plath, donc ouais, Sylvia Plath est une jeune poétesse romancière, elle se suicide à 30 ans. Vous, votre idée, ouais, c'est d'imaginer ce qui se serait passé si elle avait raté son suicide et donc continuer à vivre. Qu'est-ce qui vous donne cette idée ?
Ce qui me donne cette idée, c'est que j'avais commencé à écrire une biographie en me disant « elle me touche, elle est importante pour moi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'écrire sur elle ». Et puis très vite, je me suis rendu compte que cette biographie, j'arrivais pas à l'écrire parce que j'avais rien de plus à dire que ce qui existait déjà en matière de biographie. J'arrivais pas à trouver un angle qui plaisait, surtout pour dire ce qui m'importait chez elle et ce que je voyais quand je la lisais, qui est son humour, sa force de vie, son énergie, sa colère, sa rage, beaucoup de vie en fait en elle. Et j'ai fini par laisser tomber ce projet de biographie et me dire en fait il faut que je passe par la fiction, et peut-être pour la raconter vivante, enfin pour la montrer en vie, il faut que je la raconte vivante.
Mais littéralement. Il n'y a pas un moment où... Alors, je ne sais pas, vous avez depuis combien de temps vous travaillez dessus, mais c'est du premier coup, vous êtes convaincu que ça va marcher ou je ne sais pas, vous avez essayé, vous avez rangé votre livre, votre travail en vous disant non, ce n'est pas possible, ou vraiment dès le premier essai, ça a été concluant et vous avez continué ?
Alors, j'ai eu l'idée, je crois, en 2012, mais il m'a fallu 7 ans, non pas pour y arriver, mais pour oser, en fait.
C'est ça, oui. Il y a un truc.
Pour oser entrer dedans.
Oui, parce que, alors, elle est connue d'un petit cénacle, Sylvia Plath. C'est pas, c'est pas un écrivain comme Virginia Woolf, mais c'est aussi quelqu'un qui a un cercle d'admirateurs très fermé. Donc c'est très, comment dire, c'est, j'oublie le mot quand on s'attaque à une icône, mais mmh. vous prenez un sujet qui est sensible, quoi. Est-ce que ça vous
c'est
a fait
ça,
peur
c'est... Oui, ça m'a fait peur. Je me sentais pas légitime non plus à écrire sur sa vie. Et puis, autant en France, elle est assez peu connue. En Angleterre et aux États-Unis, c'est une immense icône. Donc, alors, je ne sais pas s'il sera traduit un jour, mais quoi qu'il en soit, je savais qu'il y avait qu'elle avait cette aura, et que sa vie a autant, voire parfois même plus, d'importance pour ses lecteurs que ses textes, en fait. Elle est vraiment... c'est aussi ce qui m'intéressait de travailler, c'est qu'elle est vraiment enfermée dans ce mythe de la poétesse suicidée et la mort tragique, de la poétesse sacrifiée. Et c'est tout ça que moi, j'avais envie de... Enfin, je voulais la sortir de ça, mais je savais aussi que la sortir de ça, ça pouvait entraîner effectivement des réticences, ça change son image, du coup, ça change la manière dont on l'aperçoit, dont elle arrive jusqu'à nous.
On va écouter sa voix, puisque malheureusement, elle a réussi son suicide, et donc elle est morte un matin de 1963, si je me souviens bien, oui. Ce que j'ai lu dans votre livre de février, je dirais, de mémoire, mais je ne suis pas sûr.
C'est ça.
Et on va juste écouter. Non, ouais. C'est ça. On va écouter sa voix. Elle parle de ses sources d'inspiration.
What sort of things did you write about when you began writing poetry?
Nature, I think. Birds, bees, spring, fall, all those subjects which are absolute gifts to the person who doesn't have, you know, sort of any interior experiences to write about. I think that the coming of spring, the stars overhead, first snowfall and so on are gifts for a child, you know, a young poet.
I was brought up on the northern coast of Massachusetts, and my whole childhood was spent on the ocean. I remember the very spectacular hurricanes we used to have, where my grandmother's cellar would be flooded and there would be sharks washed up in the garden and so forth. And the image of the sea has been with me ever since, even though I've been inland for a few years. And I think one always goes back to something as vivid.
Voilà, on va pas écouter plus longtemps. Elle parle de la nature de son pays de naissance, les États-Unis. Ce que je trouve formidable dans cette voix, c'est qu'on entend justement toute cette force vitale dont vous parliez juste avant.
Oui, elle a une voix très.
Il y a un enthousiasme extraordinaire, ouais.
Ouais. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que les images qu'on a gardées d'elle, c'est des images qui la montrent très. Très jeune, souvent.
Très
blonde,
triste, un peu. On est un peu souvent dans le stéréotype. Voilà. Pardon. Allez-y, pardon.
Ou alors mélancolique. Il y a les deux, en fait. Il y a des images de l'américaine des années 50, brillante, souriante, à la plage, en maillot de bain. Et puis, il y a des images où elle est beaucoup plus mélancolique. Et là, je trouve, dans sa voix, elle est ni l'une ni l'autre, en fait. Elle est, il y a vraiment la femme, on sent la confiance, on sent quelque chose de très calme, finalement, de très posé.
Ça rajoute presque au mystère.
Quand j'entends sa voix.
Pardon, ouais. Ça vous fait quelque chose, Julie ?
Ça me surprend presque toujours, alors que je la connais, cette voix, mais à chaque fois, je la trouve encore différente de toutes les images que je me suis construite d'elle.
Quand on disait là que donc dans le livre, vous imaginez ce qu'aurait pu être sa vie si, est-ce que c'est aussi pour vous une manière de venger son destin et plus généralement de venger le destin de toutes les femmes qui ont payé leur vie, cette condition féminine parfois difficile ?
Oui, c'est une manière de venger son destin à elle avant tout, de lui inventer la vie que j'aurais aimé la voir vivre et avec la joie, avec l'amitié, avec l'amour, avec tout ce à quoi elle a pas eu droit. Et d'une certaine manière, effectivement, moi, j'en fais une autre sorte d'icône, en tout cas de Elle pourrait être une femme parmi d'autres dans les années 60 qui peinerait à trouver sa place en tant qu'artiste, en tant que mère, en tant que femme, en tant que amante. Voilà, j'essaie de raconter par sa vie ce qui a été le cas de plein d'autres femmes, en fait.
Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand on connaît, quand on lit des dates, enfin, moi en tout cas ça me fait ça, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais on ne réalise pas forcément à quel moment les gens ont vécu. Et là ce qu'on voit très bien, c'est qu'en fait, au moment où elle meurt, c'est le moment de l'éclosion d'une joie de vivre à Londres. On parle de Swinging London, c'est l'explosion des Beatles, elle va au concert des Beatles à un moment. Et ce décalage entre cette femme qui aurait pu vivre tout ça et tout créer un effet de contraste tout à fait saisissant, c'était volontaire chez vous de montrer dans quelle époque elle est aussi, quel moment elle s'inscrit.
Oui, je voulais vraiment montrer qu'en fait elle est morte à l'orée de tout ça. Elle est morte en 1963, donc les Beatles ils ont fait leur premier album fin 62, je crois, et ils ont commencé à devenir des stars entre 63 et 64, et ensuite ils ont entraîné toute la révolution culturelle, la révolution sociale aussi, la révolution des mœurs. Et elle a jamais vu tout ça, elle l'a jamais vécu, et elle y a échappé, et d'une certaine manière, elle est restée à la lorée de ça. Elle est morte dans les années 50, c'est ces années-là qui m'ont tuée. Et je voulais qu'en continuant sa vie, elle embrasse en fait tout ça, que ce changement de civilisation la change elle aussi, et qu'elle passe de l'autre côté, qu'elle passe du côté du monde qui change, du monde qui se libère et d'elle-même qui se libère.
Vous diriez qu'elle est née trop tôt ?
Je sais pas.
Qu'elle est en avance sur son temps, peut-être ?
Un peu, oui. Elle était aussi prise par les contradictions de son époque, parce qu'elle avait tous les désirs d'une femme des années 50-60. Elle voulait un foyer, elle voulait plein d'enfants, elle voulait s'occuper de son mari, elle voulait la maison. Elle voulait quand même tout ça. Mais elle avait une espèce de contradiction irréconciliable en elle, entre ce désir très, très cadré, très, très imposée par son époque, et puis effectivement ce côté avant-gardiste où elle voulait être indépendante, elle voulait être libre, elle voulait vraiment tout avoir.
Ça reste pas ça toujours très vrai dans la condition des hommes et encore plus des femmes aujourd'hui?
Ça reste très vrai, ça s'est décalé. Maintenant, les injonctions sont différentes, on va dire. On a pu être une parfaite femme au foyer, mais on doit toujours tout faire, tout avoir, et en plus on doit être épanouie partout. Donc je pense que les injonctions sont toujours là, elles sont un petit peu à un endroit différent, mais elles sont toujours très fortes.
Je reviens à votre fiction, vous avez cette idée extraordinaire, enfin moi je trouve épatante, comme on dirait, pour employer un vieux mot, c'est d'imaginer qu'elle va écrire une comédie musicale inspirée du seul roman qu'elle a publié de son vivant, La cloche de détresse.
Oui.
Comment vous vient cette idée assez baroque, on peut dire, je crois? Parce que Sylvia Plath, on ne pense pas comédie musicale quand on pense à elle aujourd'hui.
Non, mais justement, je pense que à la fois je cherchais quelque chose qui allait la faire sortir d'elle-même.
Là, vous imaginez une rencontre avec une... Pardon, je coupe la parole, pardon. Le téléphone, c'est toujours un peu compliqué. Mais vous imaginez une rencontre avec une jeune metteuse en scène de théâtre qui vient la chercher pour lui dire « je voudrais adapter votre roman ».
C'est ça. Et il fallait qu'elle aille ailleurs, en fait. Pour se sauver, il me semblait qu'il fallait qu'elle sorte de qui elle était, de sa culture académique, de tout ce qui l'enfermait, et qu'elle aille vers quelque chose de vraiment différent et loin d'elle. Et la comédie musicale, ça me semblait... à la fois, c'était ses racines, parce qu'elle est quand même américaine, et donc c'est aussi le pays de la comédie musicale, et en même temps, c'était totalement absurde, en fait, de vouloir monter un livre sur le suicide et la dépression en comédie musicale. Et je trouvais que l'idée me plaisait à moi, comme je me disais qu'elle aurait pu attirer son attention, en tout cas.
Oui, parce qu'il y a ça aussi dans son destin, c'est que c'est une Américaine exilée à Londres. On sait si elle souffrait de cet exil ?
Enfin, elle se sentait... elle en parle un peu dans ses journaux, notamment. On sait qu'elle se sentait pas... À la fois, elle n'a jamais eu de vrai manque des États-Unis, même s'il est retourné quelques années avec son mari, mais elle ne se sentait pas non plus tout à fait anglaise. Mmh. Elle n'avait pas un tempérament très anglais, très britannique, et je pense qu'elle avait toujours un sentiment de décalage.
Il y a une phrase que j'adore dans votre... il y a plein de choses que j'adore, mais il y a une phrase que j'adore pour revenir à cette histoire de comédie musicale. Il y a un moment, un de vos personnages qui dit « On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'un numéro de claquette ne rend pas heureux. » Ça, c'est vous qui parlez à ce moment-là?
C'est moi,
vous
oui.
Pensez vraiment qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'aime pas Jacques Demy et Fred Astaire?
En tout cas, on peut s'en méfier.
C'est le conseil que vous donneriez aux gens?
Oui.
Alors, je reviens à votre fiction que vous construisez. Il y a des rencontres, il y a ses amis, puis il y a un personnage très intéressant qui est celui de la psychanalyste. Mmh. Et je me suis demandé si ce n'était pas la position de l'écrivain, qu'elle avait cette psychanalyse dans son regard, qui cherche dans les indices à comprendre la personnalité de l'autre et de l'aider à s'émanciper.
Il y a un peu de ça, effectivement. C'est vrai, c'est un peu la voix du réel, la psychanalyste, parce que c'est elle qui va la faire se poser des questions sur ce qui se serait passé, par exemple, si elle était morte, vraiment. Donc, qui va ramener un peu le réel dans la fiction pour mettre en miroir et en parallèle la fiction qu'elle est en train de vivre dans mon livre et puis la réalité de son destin d'icône tragique. Donc, effectivement, moi l'autrice, je ramène aussi ce réel. Enfin, moi, en écrivant, je fais tout le temps le lien entre les deux, entre la fiction que je crée et puisque je sais de la réalité. Donc, la psychanalyste, elle vient remettre ça, mais dans le texte.
Oui, parce qu'au début de l'interview, de l'entretien, là, vous avez glissé une information qui reprend une question que je voulais vous poser. C'est que cette fiction est aussi une biographie. Et ça ne m'étonne pas que vous aviez travaillé avant une biographie, parce que vous distillez beaucoup d'informations sur ce qui a été aussi son destin tragique. Donc ça, tout, j'imagine, oui. Ça vous a servi.
Oui, j'avais à cœur aussi que le livre soit lisible par des gens qui ne connaissent pas sa vie, par exemple, et qui ne savent pas qui elle est. Et donc, je voulais aussi raconter par petites touches sa biographie, ce qui était important, les étapes importantes de sa vie et de son histoire.
Mmh. Moi, j'aurais mille questions à vous poser, mais le temps tourne. Je rappelle que je suis avec Colline Pierret, que vous êtes l'autrice de « Pourquoi pas la vie ?», un roman paru aux éditions Iconoclaste qui revient sur la figure de Sylvia Plath. Je reviens sur ce qui m'a frappé. Moi, l'homme assez âgé, blanc, qui a lu votre livre et je dois avouer qu'il ne m'avait jamais traversé l'esprit. On parle toujours du partage inégal des tâches, de la charge mentale des femmes. Il y a une chose qui apparaît très flagrante dans votre vie, c'est que dans ce partage des tâches, les femmes, elles ont la culpabilité quand elles veulent travailler.
Toujours.
C'est la seule, son mari, lui, il mène, et elle le dit souvent, lui, il mène sa carrière, il s'occupe de temps en temps des enfants quand ça l'amuse, mais c'est elle qui a toujours la culpabilité. Alors, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti très, très violemment.
Oui, c'est vraiment ça. Oui. C'est que même dans un schéma idéal où l'homme et la femme partageraient tout de manière équitable, l'homme se fera toujours du plus quand il s'occupe de son foyer, de ses enfants, de sa famille. La femme, ce sera toujours, le temps de travail sera toujours du temps qu'elle enlève au temps où elle s'occuperait de ses enfants, de sa famille, de son foyer. Dans la représentation, évidemment, pas en vrai, mais c'est toujours comme ça que c'est perçu, je trouve. Donc forcément, ça engendre de la culpabilité.
Oui, avec cette angoisse de ne pas être une mère parfaite, de pas assurer, entre guillemets, c'est pas très joli, mais...
mais il y a ça, oui, il y a plus d'injonctions, je pense, qui pèsent, beaucoup plus qui pèsent sur les femmes et sur ce que devrait être le rôle d'une femme, de comment être mère, de comment être une bonne mère, que sur les hommes.
Ces injonctions-là, elles peuvent rendre malheureuses, rendre dépressives, rendre... On n'est pas psychanalyste, évidemment, ni psychiatre. Mais c'est quelque chose qui... Oui, on sent que c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur, finalement.
J'ai l'impression que tout ce qu'on dit du postpartum ces dernières années, de la dépression postpartum, et on se rend compte petit à petit que c'est pas biologique, en fait. C'est à cause de ces injonctions, c'est à cause de la difficulté à être mère avec ce poids social qui pèse sur les femmes.
On écoute un peu de musique, c'est pas les Beatles, mais vous allez voir, c'est pas mal aussi. Ça déménage. Quoique, vous allez voir, ça déménage aussi.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin, c'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de vivre Ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre. Leur mal de vivre qu'ils ont dû vivre. S'est promené de rive en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, et c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins.
Malheureusement, les applaudissements ne sont pas pour moi, mais pour Barbara. C'est un enregistrement en public au Châtelet en 87. Du mal de vivre, je suis toujours avec Colline Pierret. Moi, je trouve que cette chanson illustre merveilleusement votre livre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Barbara. J'espère que ce n'est pas votre cas, que c'est pas... je ne vous ai pas fait subir un moment terrible.
Non, pas du tout.
Il y a toujours un truc qui me fascine dans cette chanson, c'est que je trouve presque que quand elle chante la joie de vivre, ça m'émeut toujours plus que le contraire, que quand elle chante oui. Le mal de vivre. Mais ça, c'est personnel. Je ne sais pas, vous, si ça vous fait pareil.
Un peu, ouais, peut-être. C'est une espèce de nonchalance au début qui est très... qui fait que tout à coup, quand elle chante la joie de vivre, effectivement, elle le vit, quoi.
Est-ce que, pour revenir à Sylvia Plath et à votre roman, donc « Pourquoi pas la vie », paru aux éditions L'Iconoclaste, vous trouvez de façon générale que les rôles modèles féminins sont trop tragiques, souvent, qu'il y a une sorte de complaisance avec ces destins de femmes malheureuses, si on voulait leur dire, finalement, il y a un prix à payer?
Un peu, ouais. En tout cas, quand elles étaient... quand les destins féminins étaient écrits par les hommes, dans l'histoire de la littérature, il y a quand même beaucoup de destins de femmes, soit tragiques, soit excessivement tristes. Et on n'a pas beaucoup de modèles de d'héroïnes héroïques, en fait, d'héroïnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, leurs envies, leurs désirs, et seules aussi, ou qui ne dépendaient pas d'un homme. On manque de ces représentations-là, oui.
Votre roman est aussi un très beau portrait de femme qui écrit, des difficultés qu'elle rencontre, des interrogations qu'elle a. Est-ce que c'est aussi un portrait de Colline Pierret en écrivain, de ses questions et de ses doutes ?
Oui, oui, il y a beaucoup de moi dans ce personnage-là, dans l'écrivaine, dans la mère, dans celle qui écrit, qui lit. Mais je pense qu'aussi, il y a beaucoup de ces doutes et de ces difficultés qui sont partagées par beaucoup de femmes qui écrivent, par beaucoup d'écrivaines et d'artistes femmes.
Il y a les doutes sur l'équipe de sa vie personnelle et professionnelle, mais il y a aussi les doutes sur est-ce qu'il faut qu'elle écrive une grande œuvre très sérieuse ou est-ce qu'elle peut s'autoriser de s'amuser. Il y a aussi des choses plus prosaïques, j'ai envie de dire.
Oui, oui.
Par exemple, à un moment, pardon, allez-y, Lily.
Je voulais questionner un peu la littérature dans tout ce qu'elle a, parce que Sylvia Plath, elle est... En peu d'années, en fait, elle a fait de la poésie, elle a écrit pour les enfants, elle a écrit un roman, elle avait écrit un poème radiophonique. Elle avait cet appétit quand même pour beaucoup de formes différentes qui n'ont pas toutes la même aura. Elle avait cette idée de la poésie, c'est noble, c'est grand, c'est beau. Et puis elle voyait ses romans comme, elle les appelait des potboilers, donc des livres pour faire bouillir la marmite. Donc elle avait quand même cette idée-là de hiérarchie dans la littérature. Et moi, j'avais envie de casser aussi un peu ça en elle.
Oui, parce que justement, vous avez... Moi, je pense, je fais toujours le parallèle, vous avez écrit beaucoup de livres pour enfants. Et il y a encore aujourd'hui une critique, en tout cas une partie de la critique, qui considère que c'est un peu moins de la littérature que la littérature pour adultes. On en est encore là quand même en 2022, hein.
Beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. Chez les lecteurs, c'est un peu différent, mais il y a quand même beaucoup cette... Effectivement, c'est la littérature pour les enfants, donc un peu plus simple, un peu simpliste, un peu... C'est pas de la nourriture pour les adultes. Mais voilà, ceux qui la lisent, ce sont ceux qui travaillent avec les enfants, ce sont les parents parfois, mais... Et donc, ouais, il y a l'écrivaine jeunesse en moi qui parle aussi... Dans ces passages-là du livre pour défendre cette littérature que moi j'estime énormément.
C'est quelque chose dont vous avez souffert, pour employer un grand mot, pour, en tout cas qui vous a agacé parfois, qui vous a énervé, qui vous révolte ?
Qui m'énerve plus que j'en souffre, mais qui m'énerve, oui. Effectivement, de voir à quel point, quand on est un écrivain jeunesse, aux yeux de certains, on n'est pas un écrivain, en fait. On est un écrivaillon, je sais pas comment dire. Ensuite, ça laisse aussi une certaine liberté, parce que puisque la littérature jeunesse est très peu suivie par les médias, très peu vue, critiquée, elle échappe aussi peut-être à certains codes, à certaines normes, à un enfermement, on va dire, dont souffre peut-être plus la littérature pour adultes.
Merci beaucoup. Je vois l'heure tourner, vraiment. Merci beaucoup, Colline Pierret. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Pourquoi pas la vie, un roman aux éditions L'Iconoclaste. Il y a un moment, vous avez quelque chose de... Si vous avez encore toute petite minute, il y a un moment, tout au début du livre, je ne sais plus qui c'est, elle ne va pas bien, elle vient de finir de sa tentative de suicide, et puis il y a un personnage qui lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» et vous dites juste cette phrase-là, elle peut être essentielle. J'ai juste envie de dire aux auditeurs, si vous avez quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien, pensez peut-être à dire cette phrase-là. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est le conseil que vous donneriez, vous ?
C'est ça, oui, ça peut être un conseil.
Dire qu'on est là, voilà, c'est important.
Voilà, dire qu'on est là et proposer son aide.
Voilà, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tendons la main. Merci beaucoup, Colline Pierret.
Merci à vous.
Voilà, c'était La Relève, c'était présenté par Christophe, c'était réalisé ce soir par Jonathan. Vous retrouvez la suite du programme de Radio Campus à 20h ce soir. Pas de matinale de 19h donc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et sur le site internet de Radio Campus Paris. Bonne soirée, merci.